France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
C'est peut-être votre fils et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Comment auriez-vous décelé quoi que ce soit puisqu'il sourit tout le temps à la maison et puisqu'il joue encore au foot avec ses frères et ses sœurs? Le harcèlement scolaire, parfois, il faut aller le chercher plus loin que ce qui se voit et savoir déceler les signes d'un enfant en souffrance parce qu'il est brimé par d'autres. C'est peut-être votre fille dont les notes ont baissé assez vertigineusement, mais vous lui avez plutôt dit de passer plus de temps à faire ses devoirs. Et comment auriez-vous décelé quoi que ce soit puisqu'elle ne dit rien de ce qui se passe dans l'enceinte de l'école ou sur son Snapchat? Le harcèlement scolaire, c'est un truc entre enfants, entre ados. Même les professeurs ont parfois du mal à voir que quelque chose de grave est en train de se jouer. Et précisément, c'est tout ça qui est très difficile à changer. Inciter les enfants à parler, à apprendre aux professeurs, aux parents aussi, à reconnaître les signes, confronter les jeunes harceleurs, informer tout le temps. On parle de 700 000 enfants, c'est beaucoup. Et c'est peut-être votre fille ou votre fils. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Béatrice, bonsoir, c'est vous la première. Bonsoir Béatrice et bienvenue.
Oui, bonsoir. Alors, je voulais témoigner. Oui, c'est moi.
Ben, je vous en prie, c'est
oui,
vous.
Oui,
absolument.
D'accord.
Allez-y.
Je voulais témoigner. En fait, je suis maman d'une jeune fille de 16 ans qui s'est fait harceler au collège, mais on ne s'est pas aperçu tout de suite. En fait, elle nous a rien dit. On a vu qu'en troisième, la note avait chuté de 16 de moyenne à en dessous de la moyenne, quand même. Mais bon, voilà. Elle était dans la même classe, en fait, en quatrième, troisième. En seconde, elle pensait arriver au lycée dans une autre classe et finalement, elle s'est retrouvée encore dans la même classe. Donc, le premier jour, elle nous a dit qu'il fallait changer de classe, sinon elle n'irait plus. On a fait une demande auprès du lycée qui ne nous a pas écoutés. Finalement, elle a commencé à sécher les cours et puis peu à peu à ne plus y aller. Elle a voulu faire un CAP, on a accepté. Là, elle allait au salon de coiffure en entreprise, mais elle n'allait pas en cours. Et finalement, le 28 décembre dernier, elle s'est enfermée à la maison et depuis, elle ne bouge plus. Voilà, elle est complètement enfermée. Il y a des moments où elle arrive à sortir pour faire une course, mais sinon, elle ne voit plus que ses parents depuis un an. Elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Elle se scarifie, on est dans une situation assez extrême maintenant à cause de ça.
Et j'imagine que vous n'avez plus de clé en fait, Béatrice. Vous savez plus quoi faire en fait aujourd'hui.
Non, on ne sait plus quoi faire. Alors elle est très suivie hein, par un psychiatre, une psychologue. On en a fait plusieurs. Elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique, etc. Mais non, on ne sait plus quoi faire. Ouais. En fait, ça l'a complètement atteint au plus profond d'elle-même. Et elle est persuadée d'être laide, que personne ne l'aimera jamais, qu'elle n'existe pas, que voilà.
Merci beaucoup, Béatrice, pour ce premier témoignage qui nous met vraiment dans l'ambiance et qui nous montre vraiment jusqu'à quel point ces problèmes peuvent être parfois extrêmement compliqués et surtout combien les parents parfois se sentent complètement démunis pour en parler ensemble, répondre à vos questions. Et jusqu'à 20h, Noémia Grohan est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une ancienne victime de harcèlement scolaire. Vous l'avez écrit dans un livre qui s'appelle « De la rage dans mon cartable ». C'est publié chez Hachette Roman. Vous avez 32 ans maintenant.
Tout
et
à
vous
fait.
Allez bien. Ça s'est passé pour vous entre 98 et 2001. Vous aurez l'occasion de nous le raconter. Bonsoir Muriel Salmona.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre spécialisée en psychotraumatologie, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Je vais commencer par vous, Noémia Grohan, parce que quand j'entends Béatrice, je vous lis aussi. En fait, il y a des choses qui sont très très similaires dans ce récit par rapport au vôtre.
Je me suis retrouvée complètement dans ce type de schéma. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu le harcèlement pendant 4 ans, donc toute ma scolarité de collège. 4 ans durant lesquels ma famille n'a absolument pas été au courant de ce que je subissais, puisque quand je rentrais à la maison, j'avais tout le temps le sourire, puisqu'à force de subir ces violences, j'ai fini par penser que je les avais méritées. Donc moi aussi, je pensais que tout ce que les autres disaient était vrai, que j'étais moche, que j'étais nulle, que je servais à rien. Malheureusement, ces propos se sont intégrés en moi. Et effectivement, je me suis retrouvée par la suite avec des conséquences post-traumatiques qui ont été redoutables.
Et vous en sortez comment, Noémia? À quel moment vous sortez de votre chambre, contrairement à la fille de Béatrice qu'on a entendue à l'instant?
Ça a été très très long. Moi, ça a eu une incidence immédiate donc sur la confiance en soi, malheureusement, qui est très vite impactée par ces situations de harcèlement. Donc j'ai complètement perdu confiance en moi. Ça a eu un impact sur mes résultats scolaires. J'en suis sortie notamment grâce à l'écriture. Parce que moi, j'arrivais à évacuer au travers de l'écriture, donc ça me permettait de mettre des mots sur mes émotions. Et par la suite, ce qui m'a permis vraiment de me relever, ça a été d'agir, de créer une association justement, et de jouer un rôle, faire en sorte que d'autres ne passent pas par là où je suis passée.
Muriel Salmona, ce qu'on entend, c'est, on peut comprendre le désarroi de Béatrice, il faut que sa fille arrive à trouver le chemin pour redevenir active, en fait, et ce qui doit être effroyablement compliqué.
Oui, c'est effroyablement compliqué. Alors, par ailleurs, c'est des troubles psychotraumatiques qui sont liés à des violences répétées, qui sont extrêmement destructrices et qui vraiment génèrent des atteintes à la fois psychologiques, neurologiques et qui nécessitent aussi des soins. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des prises en charge. Souvent, il y a beaucoup de prises en charge qui ne sont pas vraiment totalement adaptées, donc pas suffisamment spécifiques aux troubles psychotraumatiques. Il y a vraiment nécessité de travailler sur les violences, justement les identifier, les nommer, être soutenu. C'est vraiment le soutien. Et puis que il y a aussi toute la dimension justice. C'est-à-dire c'est des faits graves, hein, sont des délits, des incitations au suicide, des violences psychologiques, des violences physiques qui sont punies par la loi. Et mais le plus souvent, il y a une impunité totale, hein, et c'est aux victimes en fait de quasiment disparaître du radar. Hein, c'est-à-dire c'est elles qui souvent doivent
changer d'école,
qui sont déscolarisées.
Et c'est la double peine du coup.
Oui, c'est la double peine, alors que ceux qui ont commis toutes ces violences, eux continuent leur scolarité sans être inquiétés. Et c'est très important que la loi passe aussi pour signifier le caractère très grave et permette aussi de renvoyer aux victimes qui subissent ce harcèlement et ces violences qu'elles ont des droits et que c'est des atteintes très graves à leur dignité, à leurs droits qui doivent être réparés et de faire tout un travail, enfin je pense qu'on y reviendra, sur les troubles psychotraumatiques et la mémoire traumatique qui fait que tout ce qui est vraiment bien décrit, c'est que les victimes revivent continuellement, réentendent continuellement des phrases assassines qui entraînent une vision d'elles-mêmes catastrophique.
Comment se fait-il, Naomi Agron, qu'on n'en parle pas ? Comment se fait-il, parce que je comprends que parfois il y a des choses traumatisantes avec lesquelles on a du mal à s'exprimer. Mais au fond, on parle à chaque fois, c'était votre cas, c'est celui de la fille de Béatrice, sont des enfants. Et donc on a confiance à ce moment-là dans ses parents, dans ses frères et sœurs, peut-être certains camarades. Comment se fait-il qu'on est archi-bloqué, qu'on n'arrive rien à dire ?
En réalité, moi, je me suis retrouvée complètement déstabilisée par cette violence gratuite. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai tenté certaines stratégies pour y faire face. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai tenté d'ignorer.
Pour répondre.
Voilà. Au départ, j'ai tenté d'ignorer en me disant qu'il finirait par se lasser. Malheureusement, ça a continué. Par la suite, j'ai essayé de riposter, de répondre, de répliquer. Mais ça sonnait faux, donc ils ont aussi continué. Et le problème, c'est que voyant qu'aucune des stratégies ne fonctionnait, je me suis complètement renfermée sur moi-même, repliée sur moi-même. Et j'ai fini par croire tout ce que les autres me répétaient, par le penser réellement. Et malheureusement, je me suis retrouvée vraiment très vite enfermée dans cette spirale infernale, dans ce cercle vicieux. Et plus on est enfermé dedans, plus il est difficile d'en sortir. Donc pour moi, c'était impossible d'en parler à ma famille, c'était impossible même d'en parler à mes frères de ces situations, parce que je me sentais coupable, honteuse finalement.
Alors que vous aviez des grands frères qui auraient pu jouer les grands frères, au fond. Et c'est à ça que sert un grand frère, parfois. Je voudrais qu'on écoute Pierrick, précisément, puisqu'on parlait tout à l'heure de tentatives de réponse. Bonsoir Pierrick.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
C'est simple, il y a une dizaine d'années, mon gamin est au lycée et deux, trois de ses petits camarades commencent à le harceler. Ça prend des proportions qui visiblement nous alertent pas, mais lui alerte l'institution, à savoir le CPE. Le CPE, oh, c'est pas grave, on passe ça sous la franche camaraderie. La franche camaraderie, une fois que l'institution n'a pas fait son boulot, ne serait-ce qu'aller voir les gamins, les convoquer et leur dire maintenant faut arrêter, les gamins sont allés jusqu'à menacer mon fils de mort. Le gamin, mon fils en l'occurrence, ne voulait plus aller en cours. Et puis au bout d'une semaine où on sent qu'il est en train de tourner à la maison, de tourner en rond et de pas être dans son état normal, à pas vouloir aller en cours, mais ne pas être malade, ne voulant pas nous dire ce qui se passe, à un moment, sa mère arrive à discuter avec lui et lui dit effectivement qu'il a deux à trois camarades qui l'ont menacé de mort. On a été obligé de porter plainte auprès du procureur de la République de Nîmes, en l'occurrence, parce qu'on habite Nîmes. Et c'est une réponse judiciaire qui nous a été donnée, et pas du tout par l'institution scolaire. Le CPE était au courant, le proviseur adjoint était au courant, et on nous a laissé nous débrouiller.
Et est-ce que les élèves ont été condamnés? Est-ce que les deux ou trois dont vous parliez l'ont été?
Il y a un sur les trois, effectivement, qui a été condamné.
Merci pour ce témoignage, Pierrick. C'est compliqué d'en arriver là, Muriel Salmona, mais à un moment, ça s'appelle une réponse judiciaire, ça s'appelle une menace de mort.
Ça s'appelle du harcèlement, ce sont des faits graves qui ont des impacts. Et c'est pas parce que ce sont des mineurs qui commettent ces effets graves qu'ils n'ont pas d'effets graves sur les victimes. Donc après, les réponses, bien sûr, pénales sont complètement adaptées à l'âge des mineurs. En dessous de 13 ans, il ne peut pas y avoir de condamnation. Et puis entre 13 et 18 ans, c'est aménagé. Mais c'est vraiment important que aussi la justice dise les choses. Et puis je voulais rebondir sur le fait justement que ce soit très difficile de parler, et vous avez vraiment décrit tout le processus où les violences répétées, ces violences répétées, gratuites, impensables, incohérentes, vont entraîner justement des mécanismes de sauvegarde par le cerveau. C'est-à-dire que c'est pas là vous qui réagissez, mais c'est votre cerveau qui réagit pour pouvoir survivre, et ça entraîne ce qu'on appelle une dissociation traumatique, c'est-à-dire une anesthésie émotionnelle qui fait que du coup on est dans l'incapacité aussi de plus en plus de se défendre intérieurement, et que du coup les phrases et les actes vont encore plus porter, et on se retrouve sous emprise en fait de ces personnes. Et le problème de l'anesthésie émotionnelle, c'est que d'une certaine manière les coups vont encore porter plus parce qu'il n'y a pas cette capacité à se défendre. Et qu'en plus, cette anesthésie émotionnelle va faire que les personnes vont être indifférentes aussi au sort des victimes. Parce que comme elles sont complètement déconnectées, ils vont avoir l'impression que de toute façon, elles sont bêtes, soit elles sont pas capables de réagir, donc c'est tant pis pour elles. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui vont intervenir.
Noémie Agron, c'est un peu comme nous le racontait à l'instant notre ami auditeur. Vous, c'était quoi? C'était deux filles.
C'est ça.
Quand on y songe, les dégâts considérables peuvent faire juste deux personnes, deux élèves, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe autour dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Je parle même pas de l'institution, on a l'occasion d'y revenir, mais les camarades de classe, ceux avec lesquels vous avez une relation, j'imagine, normale, ils voient. Est-ce qu'ils ne disent rien, ou est-ce qu'au contraire, il y a une brèche et ils s'enfoncent aussi dans cette brèche-là?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le harcèlement, les moqueries, les humiliations ont commencé par deux filles et deux meneuses. Et très vite, ça a été suivi par d'autres élèves donc de la classe, c'est-à-dire que certains élèves se sont mis à suivre le mouvement, donc à participer eux-mêmes aux humiliations, d'autres restaient silencieux, mais donc malheureusement de par ce silence consentant, participer indirectement à ces situations.
Ça veut dire zéro ami, Noémia.
Et d'autres rigolaient. Ouais. Donc non, j'étais complètement isolée, j'étais seule face à cette situation, et c'est ça qui était extrêmement difficile, c'est-à-dire que voilà, je me retrouvais seule et je comprenais pas pourquoi.
Même pas à l'extérieur, dans des activités extérieures, le foot, le tennis ou je ne sais quoi d'autre.
Justement, du fait du harcèlement, j'ai pas continué à faire des activités extrascolaires parce que j'avais trop peur que ça puisse continuer à l'extérieur aussi.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve enfermé à l'intérieur de soi. Bonsoir Leslie.
Bonsoir.
Allez-y Leslie, on vous écoute.
Bonsoir, je voulais juste faire part d'un témoignage. Je suis assistante sociale dans un collège dans les Alpes-Maritimes, et cet après-midi on a justement parlé des témoins avec des élèves de troisième, avec la psychologue de l'éducation nationale, et c'est vrai que je pense que je peux apporter peut-être une réponse un petit peu plus positive.
Allez-y,
par rapport à la prévention des violences, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la victime, des agresseurs, et bon, Noémie en parlait tout à l'heure, mais les témoins, même s'ils sont silencieux, justement, voient des choses, et on leur a fait toucher du doigt aux élèves de troisième. J'ai trouvé que c'était très positif parce que ils se sont rendus compte qu'en fait ils sont très souvent témoins, et que c'est eux qui peuvent, à mon avis, être la petite pierre dans l'engrenage qui fait que la violence ne se commet pas, ou en tout cas ne s'aggrave pas.
Et je sais pas si ça existe chez vous, Leslie. Moi, j'ai entendu parler de copains solidaires, d'ambassadeurs. Il y a beaucoup d'écoles qui mettent ça en place. Ça existe comme ça chez vous ou pas?
Alors dans le secondaire, moi, je travaille sur un collège, donc dans le secondaire, ça n'existe pas. Mais je sais que dans les écoles primaires, effectivement, ça existe. Mais sans parler de ces dispositifs-là, finalement, n'importe qui peut, dans les élèves, être citoyen, nos citoyens de demain. Et moi, j'y crois beaucoup, et je pense qu'avec avec la psy, là, on a encadrer un petit groupe qui vraiment peut faire des petits. Et on s'est servi des films de prévention qu'on utilise dans les collèges. Et par le Théâtre Forum ensuite, on les a mis en situation, en scénette. Et ils se sont rendus compte du rôle qu'ils pouvaient avoir.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Leslie. Et c'est vrai que c'est important aussi, évidemment, Muriel Salmona, de dire qu'il se passe des choses dans les écoles. C'est à ça que sert cette journée, d'ailleurs. Il y a une vraie prise de conscience de ce qu'est aujourd'hui le harcèlement scolaire. Et heureusement, et en effet, sensibiliser les autres, arriver à faire comprendre aussi aux gamins que si tu dis que l'un de tes camarades est harcelé, t'es pas une balance non plus. Il y a des choses qui sont importantes à dire avec des jeunes gens de cet âge-là.
Alors, c'est effectivement le propos de cette journée.
Bien sûr.
Et de toutes les actions qui doivent avoir lieu dans le cadre de cette journée, et puis de donner des outils, des informations, des outils, de nommer, d'expliciter de quoi il s'agit, la gravité des faits, la gravité des conséquences, et puis de donner aussi les moyens justement à tous les enfants de pouvoir avoir des ressources, savoir quoi faire, à qui parler, comment faire. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut quand même aussi prendre garde de pas demander uniquement aux enfants, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient témoins, d'être ceux qui vont permettre de sortir de cette situation-là. C'est aux adultes, quand même, faut pas oublier que c'est aux adultes de poser des questions, de regarder ce qui se passe, d'intervenir et d'intervenir très tôt, dès le début. Parce que, je veux dire, une fois que les choses sont enclenchées, ça devient de plus en plus compliqué.
Et c'est exactement ça. Et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense vraiment, moi, je crois vraiment aux témoins. Parce que les témoins, c'est 80% de la situation. Et c'est vraiment, pour moi, ceux qui peuvent jouer le plus grand rôle, de par l'empathie, de par la solidarité, peuvent agir et complètement stopper, en fait, cette situation de harcèlement. Donc ça, c'est important de le mettre en avant, tout à fait.
Amaury, vous nous attendez depuis 21 minutes et 12 secondes. Je suis désolée. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir Fabienne. Bonsoir à vos invités. Moi j'ai subi un harcèlement scolaire quand j'étais au collège pendant 4 ans, en fait, suite à mes cheveux. En fait, j'avais les cheveux frisés et assez longs, et j'étais le mouton du collège. Voilà, il y avait 250 élèves, et à chaque fois que je sortais dehors, en fait, j'étais méprisé, et j'entendais bé en permanence. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, j'ai aujourd'hui 29 ans, ça me suit encore, et ces personnes qui à l'époque m'insultaient, je les croise aujourd'hui dans ma vie professionnelle.
C'est
assez dingue.
Et est-ce que vous leur avez dit, du coup, Amaury, est-ce que tu te rends compte jusqu'à quel point ça m'a traumatisé? Vous avez parlé de ça ou pas?
À l'époque, vous savez, on a 13 ans, on a 14 ans,
maintenant.
Aujourd'hui, non, j'ai pas envie de retourner là-dessus. J'ai l'impression que c'est illusoire, en fait, c'est banal. Et mais aujourd'hui, j'y pense encore. J'en ai parlé à ma femme. C'est la seule qui est au courant. Mes parents, à l'époque, m'ont dit qu'il fallait pas que je les écoute, mais ça a évidemment pas suffi. Et l'institution, en fait, le CPE, quand je lui en ai parlé, m'a mis en isolement, c'est-à-dire que j'ai été viré une semaine en interne parce que je m'imaginais une situation qui n'avait pas lieu et que je créais un désordre, en fait, face à une majorité qui était...
Donc c'est votre faute, Amaury, c'est dingue.
Oui, voilà, c'était ça, c'était un peu de ma faute, j'exagérais, en fait, voilà.
Et puis vous avez qu'à vous couper les cheveux, et puis comme ça, voilà, j'imagine
ça,
très bien.
Mais j'ai subi aussi des plus ou moins des agressions physiques parce qu'on... À l'époque, on m'a collé des chewing-gums, du Babybel fondu dans les cheveux, donc j'ai été obligé de me couper les cheveux. Aujourd'hui, j'ai les cheveux courts, et je crois que je me laisserai jamais repousser les cheveux parce que
si,
ça me...
c'est
compliqué psychologiquement, c'est dur, en fait. J'en ai jamais parlé à personne. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle, c'est un peu l'occasion, mais c'est vraiment dur.
Eh ben, on vous remercie vraiment d'avoir décroché votre téléphone et d'avoir eu le courage de nous le raconter, Amaury. Noémia Grohan, là aussi, tellement de temps pour en parler. Et moi, je suis très émue par Amaury qui nous dit, même aujourd'hui, je ne vais pas me laisser pousser les cheveux.
Ouais. Ça montre bien à quel point ça peut marquer ces situations profondément à l'intérieur de soi.
Vous l'avez rencontré, votre harceleuse, après?
Oui, alors j'ai effectivement des liens indirects au travers d'un réseau social avec une ancienne harceleuse qui, presque 10 ans plus tard, s'est excusée pour ce qu'elle m'avait fait subir, s'est remise en question. Et c'est vrai que pour moi, ça a été aussi une étape dans le cheminement de résilience et de reconstruction. Le fait d'entendre, voilà, c'était pas toi qui étais pris pour cible finalement. On était à l'époque, on se rendait pas compte, on était stupide. C'est ce qu'elle m'a dit dans le message. Et c'est vrai que moi, ça a été une étape clé dans ma résilience et dans ma reconstruction, de se rendre compte que voilà, on n'a pas à se sentir coupable, honteux de ce type de situation.
Avant de retourner au standard, Muriel Salmona, je voudrais qu'on retourne un peu les questions. Qui c'est les harceleurs en fait? Qui sont ces jeunes gens harceleurs et harceleuses? Est-ce que là aussi, ça peut être n'importe qui, entraîné aussi par une espèce d'effet de groupe? Qu'est-ce qui vient? C'est quoi le mécanisme qui fait qu'il y a deux filles subitement qui s'en prennent à une jeune Noémia ou à un jeune Amaury? C'est quoi le mécanisme?
Oui, alors, le mécanisme de fond, c'est un mécanisme de prise de pouvoir et de domination et de rapport de force.
Filles par ailleurs. Je remarque que c'est vraiment pas un truc de garçon.
Oui, alors quand il s'agit de harcèlement sexuel, c'est beaucoup plus les garçons. Donc parce que ça fait partie aussi du harcèlement. Donc ça se distribue, les rôles se distribuent, mais c'est vrai que il y a vraiment une domination qui est en jeu. Et puis il y a le fait, ça c'est un élément important, c'est que à partir du moment où des violences sont exercées, ça génère une sorte de drogue en quelque sorte qui est produite par le cerveau du côté des harceleurs. Et ils vont devenir quasiment accro à la violence et à ce que ça génère chez eux. Ça leur fait une sorte de shoot. Et si on n'arrête pas le processus très tôt, je veux dire, le processus s'emballe complètement et s'emballe et touche de plus en plus de personnes. Alors souvent, les harceleurs ont été confrontés à des violences, mais gèrent leur malaise ou leur trauma personnel en exerçant des violences. C'est une façon d'échapper en fait à leur trauma, mais ils n'ont pas le droit de le faire, bien entendu. Et ils vont s'en prendre aussi à des personnes qu'ils peuvent qualifier d'inférieures par rapport à leur système de pensée. Donc on sait que être handicapé par exemple multiplie par 4 le risque de subir des violences de cet ordre-là, mais aussi toute forme de discrimination, de différence.
Tout est bon. Vous, c'était quoi Noémia d'ailleurs?
Moi j'avais les oreilles légèrement décollées, la mâchoire légèrement déviée, je portais pas des vêtements de marque à la mode et ça m'est tombé dessus.
Voilà, c'est ça, tout élément peut être utilisé, mais le problème c'est que c'est souvent vu du côté de l'institution comme c'est la victime qui a créé le harceleur. En fait, c'est jamais ça. Ça, c'est des personnes qui cherchent à harceler, qui sont en chasse en quelque sorte, et qui vont trouver n'importe qui des victimes, où ils vont chercher l'élément qui va être utilisé et mis en scène pour créer cet harcèlement. Mais c'est vraiment une volonté de pouvoir, de toute puissance, et d'échapper eux-mêmes à
des troubles psychiques. D'ailleurs, il est pas rare que des personnes qui ont des enfants, qui ont vécu le harcèlement, par la suite deviennent harceleurs eux-mêmes. C'est des mécanismes qu'on retrouve effectivement dans ces situations de harcèlement. Pour ne plus subir, ils passent de l'autre côté.
En fait, on sait que le premier facteur de risque de subir des violences, c'est d'en avoir déjà subi. Mmh. C'est qu'en plus, ça va être vraiment une vulnérabilité.
Visiblement avec ceux
ça marche aussi. Le premier facteur de risque de commettre des violences, c'est d'en avoir subi. Mais après, là où ça fait la différence, c'est la position qu'on a en termes de rapport de force et de position de domination.
Eh bien, justement, voici Maëva, qui dit elle-même qu'elle était harceleuse étant plus jeune. Bonsoir, Maëva.
Oui, bonsoir.
Merci de nous appeler, Maëva. Racontez-nous.
C'était à l'époque du collège. J'étais harceleuse en 6e et 5e. C'était vraiment pour faire rire les autres. Et on s'en doutait pas du tout que... Enfin, on n'arrivait pas à se mettre à la place de notre victime. L'important pour nous, c'était vraiment de se trouver une place au sein de la communauté. Mmh. Et de se dire que on sera pas harcelé à notre tour si on est harceleuse aussi.
Est-ce que aujourd'hui il vous est arrivé de retomber sur des gens que vous avez harcelés? Est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver à en parler en fait réellement et de vous dire pourquoi j'ai eu au fond cette attitude là?
Alors non, j'ai pas eu l'occasion. Même après, j'ai fait des démarches pour retrouver la personne que j'ai vraiment harcelée. Je ne l'ai jamais trouvé et je le regrette franchement. On était vraiment bêtes un peu. Mais si je pouvais, je ferais bien mes excuses en face.
Vous avez des enfants, Maëva, ou pas?
Non, pas du tout.
D'accord. Bah écoutez, j'allais dire.
Ouais, je sais.
Peut-être que ça s'arrête avec vous, ou alors que quand vous en aurez, ben vous pourrez leur dire un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Maëva, pour ce témoignage. Merci vraiment. Moi, il y a deux choses que j'entends dans ce que nous a dit Maëva, Muriel Salmona. D'abord, j'entends populaire. Il y a une dictature du populaire quand on est au collège et au lycée qui est épouvantable.
Ouais, ouais.
Et si on n'est pas populaire, c'est mort.
Ouais, ouais.
Et pour l'être, on est parfois prêt à n'importe quoi.
Voilà, c'est ça, d'être meneuse, d'être meneur et d'être en position dominante. Et puis, il y a derrière le côté populaire, il y a aussi la vision de la loi de la jungle, quoi, en quelque sorte, où celui qui gagne, c'est celui qui est en position de pouvoir. Et c'est là, parce que là, c'est intéressant quand même, tous les témoignages. C'est-à-dire, il montre bien aussi que du côté des harceleurs, il y a quand même une méconnaissance de la gravité des conséquences, ouais. Même si quand ils sont harceleurs, ils ont une cruauté réelle, hein, c'est-à-dire ça n'empêche pas. Mais le problème de la violence, quand elle est exercée, c'est qu'elle est dissociante à la fois pour la victime, on en a parlé, mais aussi pour l'agresseur. Et du coup, elle anesthésie émotionnellement aussi, ce qui fait que ceux qui harcèlent vont avoir une sorte d'indifférence aux conséquences sur la victime. Si elle pleure, ils n'en ont rien à faire. Si elle va mal, ils n'en ont rien à faire. Parce qu'ils sont, dans ce processus, dans cet engrenage. D'où l'importance que des adultes extérieurs interviennent.
C'est ce que j'allais vous demander.
Mais c'est phénoménal.
Voilà, si c'est l'adulte qui intervient à un moment et qui dit ça, c'est non.
Mais oui,
et puis ça, c'est grave. Le harcèlement s'arrête.
Mais oui, bien entendu. Si. Et bien entendu, ça, c'est grave. Ce sont des délits. Vous n'avez absolument pas le droit. Ça entraîne des conséquences. Et puis, on intervient. Or, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent une minimisation et le fait que, puisque c'est entre enfants, en quelque sorte, entre mineurs,
c'est normal.
Bon, bah, c'est normal, et puis ils se débrouillent, et puis ça leur apprend la vie. Hein. Il y a même cet aspect-là. Oui. Et puis, comme tout le monde est dissocié et déconnecté, bah, du coup, aussi, les adultes ont l'impression que tout ça n'est pas si grave, alors que c'est très grave.
Noémia, si on n'en parle pas aux adultes, est-ce que c'est précisément parce qu'on se dit ça, on se dit, non, mais de toute façon, ils vont jamais me croire, donc c'est pas la peine.
À l'époque, moi, quand j'ai vécu le harcèlement, donc on n'en parlait absolument pas.
Hein, en plus, c'était il y a
bien
plus
avant 2011, donc on n'en parlait pas du tout en France. Donc effectivement, il y avait le fait de se dire, bah, finalement, moi parfois il y avait des adultes qui étaient témoins des violences dont j'étais la cible et qui malheureusement, aux quelques reprises qui ont été observées, le reste c'était vicieux, c'était sournois, mais il y a eu quelques observations d'adultes, malheureusement les adultes n'ont pas réagi. Donc moi je me suis dit, bah, si les adultes ne réagissent pas, c'est forcément entre guillemets que c'est
bien
normal
sûr,
ce que je subis. Et donc ça crée malheureusement silence.
Et puis ça renvoie aussi que, bah, que c'est justifié,
oui,
que c'est légitime.
Tout à fait. Enfin, tout à
c'est
fait.
Ça qui est terrible.
Ça crée ce sentiment de légitimité. Alors aujourd'hui on en parle de plus en plus, heureusement.
Et oui, absolument, heureusement. Et on en parle parce qu'il y a eu des drames, et c'est la raison pour laquelle on en parle. Parce que quand on parle d'extrémité, c'est 10 ans de dépression comme vous, c'est tout de même très violent. Il y a eu des suicides, évidemment, il y a des situations qui sont gravissimes. Bonsoir Marie-Laure, et pardon de vous avoir fait patienter si longtemps.
Oui, bonsoir. Je voulais témoigner car notre fils a été victime de harcèlement en quatrième il y a 2 ans. On a réalisé ça à la fin de l'année scolaire, en mai, car au cours d'une auberge espagnole au collège, en fait, mon fils est venu me voir plusieurs fois et il voulait quitter la soirée. Donc j'ai fini par céder, mais là j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas et je l'ai interrogé, j'ai tiré la ficelle et là il m'a tout raconté, il a tout lâché, les moqueries, les railleries, les messages sur Snapchat, le fait qu'il mangeait seul à la cantine, qu'il était moqué parce qu'il était tout seul. Et surtout, il m'a dit je referai pas une année comme ça, je veux changer de collège. Et là c'était fin mai. Et donc, un peu le ciel nous est tombé sur la tête et on a, en tant que parents, on a tout fait pour accéder à son désir de changer de collège. Ce qu'on a réussi à faire parce qu'on a trouvé, un collège qui a été sensible à la situation, suivi psychologique. Et puis aussi, on a quand même alerté le collège où il était. Et là, c'est vrai que, bon, à notre sens, on n'a pas eu la réponse adaptée, quoi.
C'est fou comme c'est vraiment ce qui revient tout le temps.
Il n'y a pas eu, quand j'ai appelé après pour dire, j'appelle pour résilier notre fils. J'ai pas du tout eu, j'avais pas eu de retour de la prof principale.
Bon, c'était. J'espère que ça va bien se passer dans le prochain collège et puis c'est tout.
Je suis contente qu'on ait eu Leslie au téléphone tout à l'heure pour montrer que parfois il y avait effectivement une institution qui vraiment se préoccupait de tout ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui revient dans le témoignage de Marie-Laure et c'est ce qui revient dans tous les témoignages. Il y a une impuissance, on va le dire comme ça pour être poli, de l'institution qui est flagrante et qui est dans tous les témoignages. Muriel Salmon.
Oui, et c'est d'autant plus scandaleux que les textes existent. Que maintenant il y a vraiment des outils, des ressources, des numéros. Hein, il y a le 30-20, il y a le 0800-200-000, et que tout est prévu en quelque sorte.
Et du coup, qu'est-ce qu'on voit pas en fait? Parce que effectivement, là, j'imagine, j'entends Marie-Laure et j'entends la forme de culpabilité qu'elle a aussi parce qu'elle s'est pas rendue compte que son fils allait si mal. Qu'est-ce qu'on voit pas?
Alors, on voit pas parce que d'une certaine manière, ce qui est terrible, c'est que pire c'est, plus la victime est traumatisée, plus elle est déconnectée, plus elle, c'est ce que vous disiez, il y a un masque. On peut, une victime qui va très très mal, qui peut même être à risque de se suicider le lendemain, peut paraître souriante. Et ça, c'est un indice de trauma vraiment dépassé. Et que du coup, il faut pas se fier forcément à des signes de souffrance évidents, parce qu'ils peuvent ne pas apparaître. Et il faut vraiment, en fait, le seul moyen, c'est de poser des questions, aussitôt qu'il y a bien entendu un élément qui alerte. Mais il faut aussi poser des questions, même s'il n'y a pas d'éléments qui alertent. C'est-à-dire qu'il faut se préoccuper de ses enfants. Les violences, c'est fréquent. Il y a, là, on sait que c'est 1 élève sur 10 peut subir du harcèlement scolaire. 1 fille sur 5 peut subir des violences sexuelles. 1 garçon sur 13. Que tout ça existe et qu'il faut absolument se préoccuper et prendre du temps pour vraiment échanger avec ses enfants, que les adultes prennent du temps et posent les questions. Il ne faut pas attendre que les enfants viennent parler parce qu'ils ça va être trop tard.
Quand vous avez parlé à votre mère, par exemple, donc très tardivement, Noémie Agron, est-ce qu'avec le recul, après, elle s'est dit, mais évidemment, j'aurais dû me rendre compte de ça.
Bien sûr, avec le recul, mais elle est complètement tombée des nues. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé des années plus tard, quand j'étais dans les conséquences post-traumatiques du harcèlement, où j'étais très très mal, en dépression, elle a pris conscience de ce que j'avais vécu, mais elle est complètement tombée des nues. Pour elle, c'était impensable que je puisse subir ce type de situation dans un établissement scolaire où elle me pensait en sécurité, c'était impensable.
Et du coup, les notes qui dégringolent, etc., elle l'avait mis, par exemple, elle, sur le compte de quoi,
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, moi, je me suis retrouvée très rapidement en échec scolaire. Donc, ma mère se rendait aux réunions parents-professeurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais cherché le pourquoi, cette chute des résultats, ces absences répétées, ce comportement très introverti en classe. Et on disait à ma mère, votre fille, voilà, ça va pas du tout. On n'a jamais cherché le pourquoi. Et ma mère a écouté finalement les professeurs qui disaient, votre fille se laisse influencer par les autres. Et malheureusement, le harcèlement n'est jamais ressorti, de fait.
Oui, parce que je voulais dire que souvent, c'est mis aussi sur le compte de la crise d'adolescence.
Aussi,
c'est-à-dire qu'il y a une sorte de banalisation d'éléments qui sont en fait des signes de souffrance. Et puis, ce que l'on sait, c'est que même encore actuellement, des enfants qui font des tentatives, des adolescents qui font des tentatives de suicide, on ne va pas leur poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu aies une telle souffrance? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que t'as subi des violences? C'est-à-dire que cette question-là, elle est absolument nécessaire et essentielle, que ce soit de tout le monde, mais aussi particulièrement de tous les professionnels. Il faut poser la question.
Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Anne, allez-y.
Oui, en fait je vous avais appelé il y a presque un an pour vous parler de la situation de ma fille qui était en CE2 et qui était harcelée dans le sens où en étant nouvelle élève dans l'école, elle était complètement mise à l'écart. Et je n'arrivais à ce moment-là à rien obtenir de l'école et je vous avais dit que j'avais sollicité tous les niveaux de l'éducation nationale. Le rectorat, le ministère, et je suis même allée, à vrai dire, jusqu'à Madame Macron, puisqu'elle allait se préoccuper de ces sujets-là.
Et
pendant l'année, j'ai jamais rien pu obtenir, sauf des courriers, que probablement que le fait que Madame Macron ait écrit faisait que le rectorat m'appelait régulièrement pour me demander comment ça se passait. Mais ceci dit, à partir du moment où la directrice ne voulait rien faire, et où l'inspectrice de circonscription ne voulait rien faire, il s'est rien passé pendant toute l'année. Et finalement, à la fin de l'année, ma fille s'est allée jusqu'à du racket. Je suis allée porter plainte au commissariat. Où au départ, vu la modicité de la somme, puisque c'était 20 euros, ils ne voulaient pas prendre ma plainte. Quand je leur ai expliqué le contexte, ils ont accepté. Mais ceci dit, à part être un baume moral pour ma fille, ça n'a pas amené grand-chose. Et je l'ai finalement donc changé d'école. et elle est maintenant dans une école Montessori où elle est épanouie à nouveau.
Et ça va mieux, il n'y a pas eu un moment de flottement entre les deux, une difficulté même à rentrer dans la nouvelle école finalement pour votre fille, Anne?
Ah non, ça a été elle a pu faire une journée d'essai à la fin de l'année dernière dans cette école. Et ça a été tout de suite, elle a tout de suite trouvé ça formidable. Elle aurait voulu y aller tout de suite et ça l'a beaucoup aidée pour terminer l'année, parce qu'ils n'ont pas pu la prendre tout de suite en fin d'année, parce que moi j'aurais même changé en cours d'année. Hein. Mmh. Mais ça l'a aidée à terminer son année dans son école, parce qu'elle avait cette perspective-là.
Merci beaucoup pour ce nouveau témoignage, Anne. Alors, j'espère, je le dis entre guillemets, que vous n'aurez jamais à nous rappeler, en fait, au fond, en tout cas, sur ce genre de sujet-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Muriel Salmona. D'abord, effectivement, au bout du compte, c'est la fille d'Anne qui change d'école, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple. Oui. Et encore, là, on est dans une situation où la mère sait.
Et puis agit, c'est déjà plus simple, on va dire. Et c'est vrai que là, il faut rappeler quand même qu'il y a une obligation de l'éducation nationale à assurer la sécurité des enfants et que c'est un droit fondamental de pouvoir en fait aller à l'école en toute sécurité et sans être harcelé ou subir des violences. Mmh. Et que du coup, on peut demander des comptes effectivement à l'éducation nationale, au niveau du tribunal administratif ou au défenseur des droits. Mais c'est vrai que normalement, on ne devrait plus être confronté à cette situation-là.
C'est scandaleux. Ce type de témoignage,
voilà, c'est scandaleux, ouais. Vraiment.
Bonsoir Paul.
Bonsoir.
On a beaucoup parlé des enseignants et surtout de l'institution aujourd'hui. Paul, vous êtes enseignant, vous allez pouvoir nous raconter en quoi c'est difficile.
En fait, quand on est enseignant, c'est extrêmement compliqué de déceler des signes de harcèlement et c'est très souvent, c'est pas dans la salle de classe, c'est très souvent la récréation. Mais quand dans la récréation, on est deux enseignants pour 250-300 élèves, on a beau avoir les yeux rivés surtout entre les jeux d'enfants, entre les bagarres et entre le véritable harcèlement, personnellement, je pense qu'on est très nombreux à pouvoir se sentir démunis. Mmh. Et je disais tout à l'heure, avant d'appeler, qu'on a souvent des animations pour autour du harcèlement, mais c'est toujours que des mots. Mais nous apprendre à déceler le harcèlement, à faire parler un élève, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, moi, je me sens autant démuni que vos interlocuteurs.
Merci.
Et pourtant, je suis au cœur du système.
Merci beaucoup. Pardon de vous couper, Paul. Merci pour ce témoignage parce que l'heure tourne. Mais effectivement, la clé est là, Noémia Grand. Il faut apprendre. Évidemment qu'un prof ne peut pas savoir aussi comment déceler ces signes-là. Ah oui. Et surtout, que dire aux harceleurs et aux harcelés, aux deux à la fois.
Bien sûr, c'est vrai qu'on peut se retrouver complètement démuni en tant que personne éducative face à ce type de situation. Et notamment, oui.
Allez-y.
Je voulais juste parler d'une il y a une méthode aujourd'hui qui existe et qui est mise en avant dite de préoccupation partagée et qui prend en compte à la fois le harceleur, la victime et les témoins, et qui apparemment fonctionne plutôt très bien, qui est très développée en ce moment en France.
Eh bien, une toute dernière chose, si je peux me permettre, je voudrais signaler le travail de jeunes collégiens du Tarn qui nous ont écrit, qui nous disent qu'ils ont fait un travail avec une psychologue pour mieux cerner le phénomène. Ils ont créé un serious game qui s'appelle Hercel Game. On va mettre le nom sur le site, et c'est tout simplement un jeu de rôle, et chaque scénario se conclut par des infos pratiques, des numéros de ressources utiles. Le numéro, je vais le donner, le numéro utile, c'est le 3020, et c'est bon à savoir. Merci à tous réellement pour vos très nombreux appels.